Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 8 janvier 2023. Le Congrès américain s'accorde sur un budget fédéral de 1600 milliards de dollars qui éloigne les risques de fermeture du gouvernement fédéral. Joe Biden en campagne à Charlestown, en Caroline du Sud, pour relancer l'électorat africain-américain à moins d'un an de la présidentielle. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Proche-Orient pour tenter d'éviter l'embrasement de la région. Le procès d'Ousmane Sonko, un ancien ministre gambien jugé pour crime contre l'humanité, s'est ouvert ce lundi en Suisse. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Politique américaine, Joe Biden dit avoir entièrement confiance en son ministre de la Défense, Lloyd Austin, bien que ce dernier ait tardé à l'informer de sa récente hospitalisation, a assuré aujourd'hui sa porte-parole sur fond de controverses montantes. Ce qui importe, c'est qu'il revienne au Pentagone, a dit Karine Jean-Pierre à bord de l'avion amenant le démocrate de 81 ans en Caroline du Sud, alors que le chef du Pentagone, admis dans un hôpital militaire proche de Washington le 1er janvier pour des complications survenu à la suite d'une procédure médicale non urgente, y était toujours ce lundi. Joe Biden se rend ce lundi à Charlestown, dans le sud-est, sur le site de l'un des pires massacres racistes de l'histoire américaine récente pour tenter de remobiliser l'électorat africain-américain qui lui a ouvert les portes de la Maison-Blanche en 2020. Les détails avec Dilly Dico.
Joe Biden a choisi, selon son équipe de campagne, un lieu qui représente les enjeux de l'élection. En 2015, alors qu'il était vice-président de Barack Obama, M. Biden s'était rendu à Charleston aux funérailles du pasteur de l'église tombé avec 8 autres paroissiens noirs sous les balles d'un suprémaciste blanc. Le discours de Joe Biden aux fidèles de la Mother Emmanuel Church intervient après son plaidoyer vendredi pour la cause sacrée de la démocratie, menacée selon lui par son prédécesseur Donald Trump. L'ancien président semble grignoter du terrain auprès de l'électorat africain-américain qui a joué un rôle déterminant dans la victoire de Biden en 2020 en votant à 92% pour lui. Cette fois, à en croire de récentes enquêtes d'opinion, Donald Trump pourrait espérer jusqu'à 20% des voix des électeurs et électrices noires, voire un peu plus. Le danger pour Joe Biden n'est toutefois pas tant la perte de voix au profit de son rival républicain qu'une forte abstention de cet électorat crucial.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken rencontre ce lundi le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. Il l'a déjà rencontré dans le cadre d'une tournée centrée sur les moyens d'éviter un embrasement régional du conflit dans la bande de Gaza. Le point avec Eric Manirakiza.
En Arabie Saoudite, ces entretiens ont porté sur les attaques que mènent les Houthis du Yémen contre les navires marchands en mer Rouge. À Abu Dhabi, hier, M. Blinken a évoqué avec le président des Émirats Arabes Unis la situation à Gaza et au Soudan, selon le porte-parole du département d'État Matthew Miller. M. Blinken a insisté sur la nécessité d'empêcher que le conflit ne s'étende davantage et a rappelé l'engagement de Washington à assurer une paix durable qui garantisse la sécurité d'Israël et favorise la création d'un État palestinien indépendant. Il doit se rendre en Israël pour des entretiens demain mardi. L'objectif de la tournée de M. Blinken est triple, selon des responsables américains, éviter une escalade et notamment que les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, alliés de l'Iran, ne débordent hors de contrôle, presser Israël d'entrer dans une nouvelle phase de sa campagne militaire à Gaza, moins coûteuse pour les civils palestiniens, et engager un dialogue difficile sur l'après-guerre.
Une frappe israélienne a tué ce lundi dans le sud du Liban un chef militaire de la force Radwan, présenté comme l'unité d'élite du Hezbollah, Wissam Hassan Tawil, commandant d'une unité de Radwan et un autre combattant du Hezbollah, ont été tués lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient a été touchée dans le village de Majal Selm, à quelques 6 kilomètres de la frontière, ont indiqué 3 sources de sécurité au Liban. Deux experts des droits de l'homme des Nations Unies ont demandé ce lundi que les auteurs l'auteur de nombreux crimes présumés, notamment de violences sexuelles, commis lors de l'attaque du 7 octobre sur le sol israélien par le Hamas, soit puni. Les preuves de plus en plus nombreuses de violences sexuelles signalées sont particulièrement poignantes, ont déclaré la rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture Alice Jill Edwards et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires Maurice Tidball-Bins dans un communiqué. La Russie a lancé ce lundi matin une attaque de missiles à grande échelle contre l'Ukraine, frappant des zones résidentielles et des sites industriels et faisant 4 morts, ont déclaré les autorités ukrainiennes. 2 personnes ont été tuées dans la région occidentale de Khmelnytsky, où des infrastructures essentielles ont également été touchées. Une nouvelle de sport avant le sport, Franz Beckenbauer, légende allemande du football, est mort dimanche à l'âge de 78 ans depuis plusieurs années. Beckenbauer s'était retiré à Salzbourg, ville autrichienne, voisine de sa Bavière natale. Fatigué par la maladie, il avait progressivement réduit ses apparitions publiques. Début janvier 2023, le Kaiser, comme on l'appelait, avait dû renoncer à se rendre au Brésil pour les obsèques du roi Pelé, avec qui il avait disputé une saison sous le maillot du Cosmos de New York. Dans un instant, l'actualité africaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, 27 militaires sierra-léonais ont comparu du moins ce lundi devant une cour martiale à Freetown qui les a inculpés de mutinerie pour leur participation présumée dans les événements du 26 novembre qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. Le procès a ensuite été ajourné à mercredi. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes ont attaqué une armurerie militaire, 2 autres casernes, 2 prisons et 2 postes de police affrontant les forces de sécurité, les armes à la main. Les combats ont fait 21 morts, 14 soldats, 1 policier, 1 gardien de prison, 1 agent de sécurité, 1 femme et 3 assaillants. Selon le ministre sierra-léonais de l'information, au moins 80 personnes ont été arrêtées en lien avec ces événements, majoritairement des militaires selon les autorités. Le procès d'Ousmane Sonko, un ancien ministre gambien jugé en Suisse pour crime contre l'humanité, s'est ouvert ce lundi. Il risque la prison à perpétuité. Davantage avec Alexandrine Oulignon.
Ousmane Sonko ne devrait toutefois pas être entendu lundi. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur qui conteste les charges retenues contre lui comparaît devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone, dans le sud-est de la Suisse. Son avocat, maître Philippe Cura, a demandé à la Cour le classement de la procédure concernant les faits décrits dans l'acte d'accusation qui aurait eu lieu avant le 1er janvier 2011. Les accusations s'étendent sur une période allant de 2000 à 2016 et il est soupçonné de nombreux crimes dont l'assassinat, les viols répétés, la séquestration répétée et la torture répétée. Le procès devrait durer un mois et le verdict n'est pas attendu avant mars. Ousmane Sonko a été arrêté le 26 janvier 2017 en Suisse où il avait demandé l'asile. Il est le plus haut responsable politique de l'ancien régime de Yahya Jammeh, jamais jugé en Europe, pour des crimes contre l'humanité, selon Trial International, l'ONG à l'origine de la procédure.
Retour sur l'actualité américaine, nous le disions en titre, les responsables du Congrès américain ont annoncé dimanche un accord bipartisan sur le budget fédéral total pour l'année fiscale 2024. Cet accord est une étape cruciale pour éviter une paralysie de l'administration américaine en cette année d'élection présidentielle. Abdou Ramandia.
L'annonce de l'accord entre leaders républicains et démocrates du Congrès a été rapidement applaudie par le président Joe Biden, qui a déclaré dans un communiqué qu'il éloigne l'éventualité d'un shutdown qu'il juge inutile. L'accord sur un plafond de dépenses fédérales d'environ 1 600 milliards de dollars a été annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson et les chefs de file démocrates du Congrès après des semaines de négociations. Plus de 886 milliards de dollars iront au ministère de la Défense. Mais les partis doivent encore s'entendre sur les détails des dépenses et adopter un texte avant le 19 janvier, date à laquelle certaines agences fédérales n'auront plus de financement. Le président de la Chambre, Mike Johnson, doit encore convaincre les élus de l'aile la plus radicale du Parti républicain qui insiste sur des coupes budgétaires et une sécurisation de la frontière avec le Mexique.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la minute écho avec Mouamadou Moufa.
Au Niger, le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a signé jeudi une ordonnance portant sur la loi de finances 2024, équilibrée en recettes et en dépenses à plus de 2600 milliards de francs CFA. Ce budget s'inscrit dans un contexte marqué par des sanctions contre le pays après le coup d'État du 26 juillet 2023 et au plan mondial par des tensions inflationnistes et le durcissement des politiques monétaires. Le président zambien encourage ses compatriotes à se lancer dans l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire, d'après des messages diffusés sur ses réseaux sociaux, tout en prenant acte des défis auxquels est confronté le secteur agricole, tels que les problèmes liés au changement climatique. Il s'est montré optimiste et a dit que rien n'empêcherait le pays de réaliser son rêve de devenir un panier alimentaire en Afrique. La Banque centrale de Libye a annoncé dimanche que les revenus pétroliers du pays s'élevaient à 23,3 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation d'environ 1 milliard de dollars par rapport à l'année 2022. Le pétrole est une source majeure de revenus pour la Libye, mais le secteur a souffert de conflits armés et de la fermeture de champs pétrolifères et de ports au cours des dernières années.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Coupe d'Afrique des Nations 2024, la ferveur va crescendo avant d'accueillir l'Afrique du foot.
Tout à fait Jean-Roger, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débute samedi. De quoi réjouir les nombreux fans de football réputés pour leur ferveur. Au marché de Cocody, dans le centre de la capitale économique Abidjan, des commerçants maliens, sénégalais et ivoiriens se chambrent, convaincus des chances de leurs sélections respectives. Avant le match d'ouverture de samedi entre le pays hôte et la Guinée-Bissau, l'ambiance monte peu à peu. Et si beaucoup d'Abidjanais craignent les embouteillages les jours de match dans une ville habituellement déjà congestionnée, la tendance est plutôt à l'enthousiasme dans la population. Quelques 20 000 jeunes bénévoles, 17 000 membres des forces de l'ordre et 2 500 stadiers seront mobilisés pour ce mois de compétition. Les organisateurs attendent jusqu'à 1,5 million de visiteurs, notamment des pays voisins qualifiés comme le Mali, le Burkina, la Guinée et le Ghana. La Côte d'Ivoire n'a organisé qu'une seule fois la CAN, c'était en 1984. Seules 8 équipes étaient alignées contre 24 aujourd'hui. Les 24 sélections sont attendues dans 5 villes, outre Abidjan et ses deux stades. Les équipes seront réparties entre la capitale politique Yamoussoukro, la grande ville de Bouaké, le port de San Pedro dans le sud-ouest et Korogo dans le nord. Jusqu'à la finale du 11 février, la compétition remportée en 2021 par le Sénégal est très ouverte. Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont gagné deux fois en 1992 et 2015.
L'entraîneur du São Paulo FC, Dorival Júnior, nouveau sélectionneur du Brésil, annonce son club.
Prendre en charge la sélection brésilienne est un rêve personnel devenu réalité, commente l'entraîneur âgé de 61 ans dans le communiqué de son club. Vainqueur de la Coupe du Brésil et de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions en 2022 avec Flamengo, Dorival, ancien joueur professionnel, est devenu entraîneur en 2003. Passé par de nombreux clubs brésiliens, il a eu notamment sous ses ordres Neymar Junior au tout début de la carrière de l'attaquant brésilien à Santos. Le Brésil doit affronter l'Espagne et l'Angleterre lors des matchs amicaux en mars.
NBA, les Spurs de Wembanyama défaits à Cleveland après une belle remontée.
Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont subi une cinquième défaite consécutive à Cleveland, 117 à 115, après avoir enflammé la fin de match dimanche en NBA. Très bon en début de partie, les Spurs ont mené une quinzaine de minutes avant d'être rattrapés puis largués par les Cavaliers de Jarrett Allen dans le quatrième quart-temps où ils ont compté jusqu'à 16 points de retard. Mais le retour de Wemby sur le terrain a aidé les Texans dans une folle remontée jusqu'à compter seulement 2 points de retard à quelques secondes de la fin de la rencontre.
Page de sport VO Afrique signée Eric Mandirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la régulation du contenu des médias pendant la période post-électorale reste une tâche sérieuse pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Antoine Roger Bolamba a joint Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui affirme que tous les partis politiques ont reçu les mêmes temps d'antenne.
Le CFA, comme institution d'appui à la démocratie, ne se limite pas qu'à réguler les contenus médiatiques en République démocratique du Congo, mais nous nous assurons que la liberté d'expression est véritablement respectée et que la démocratie respire convenablement. Et c'est ce qui a été fait depuis tout ce temps. Mais le travail était subdivisé en trois grandes parties. Il y avait la période préélectorale, il fallait faire respecter la loi électorale, faire respecter la loi de la République, faire respecter notre espace médiatique, il fallait assurer une calibrité, un suivi, il fallait tout faire. Et ça, ça a été fait. La deuxième partie, c'était la partie électorale, c'est-à-dire la partie consacrée à l'octroi de la parole, organiser les débats politiques, parce que après, vous savez très bien, les débats politiques, c'est le jauge le plus important pour la démocratie. Il fallait laisser les candidats s'exprimer et laisser les candidats être en contact direct avec la population qui élit directement. Mais après, il y a eu aussi la troisième partie, et qui est une partie post-électorale, et c'est la partie la plus difficile d'ailleurs, puisque c'est une partie au cours de laquelle il fallait éviter le sabotage du processus, il fallait aussi rassurer l'atterrissage en beauté et en sécurité, il fallait organiser un chronomètre important pour que tous les candidats se retrouvent bénéficiaires du même droit. Et ça, on l'a fait. Il fallait se rassurer qu'aucun média ne serve de pomme de discorde ou même de terrain ou de spectacle de gens offrant ainsi la division de la classe politique ou même de notre société.
Mais actuellement, avec des discours, avec la tension qui règne entre opérateurs politiques, comment est-ce que le CESAC arrive à se mettre au milieu, surtout par rapport au partage du temps d'antenne?
Nous, nous restons au milieu, comme on peut le dire, c'est la neutralité qui caractérise notre travail en tant qu'institution, mais nous puisons notre force dans l'objectivité et surtout dans la racine de nos lois. Alors, il est important de rappeler que nous avons utilisé deux éléments importants, c'était la légalité et l'équité. L'équité, ça veut dire qu'il fallait donner à tout le monde le même temps de parole, peu importe leur obédience, peu importe leur niveau, mais tout le monde devait avoir le même temps de parole. Mais après, la chaîne nationale et tous les espaces d'ailleurs médiatiques, les chaînes sont commerciales. Ce qui fait que lorsque quelqu'un a les moyens, ben, il va acheter son espace. Mais nous avons insisté à ce que si on accorde au candidat A l'achat de son espace, il faut le faire aussi pour le candidat B.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de la RDC.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, des Africains américains retrouvent leurs origines grâce aux initiatives de retour aux sources, notamment en faveur des Africains américains. Ces derniers peuvent ainsi visiter des sites historiques et mémoriels, point de départ de leurs ancêtres, où ils viennent désormais faire des rites de purification. De Yaoundé, notre correspondant, Emmanuel Jules Ntap.
My ancestry traces to the Bamileke people, and I'm here in Cameroon to learn about the Bamileke and our land and our history.
Jason Elon est un Africain américain d'une quarantaine d'années. Il vient d'achever son premier séjour au Cameroun. En 2014, Jason Elon a passé un test d'ADN et découvert que ses ancêtres sont venus du Cameroun, précisément de la région de l'Ouest.
The slavers made special effort to remove my Africanness from my ancestors, and so for me it was important to reacclimate to my African heritage. And this is something that African Americans and Africans abroad are doing, have always been interested in Africa and our ancestry, but through science, we've been able to trace our ancestry back to our people, and we're now trying to reclaim that history. So I'm here to reclaim that history.
Après un voyage dans la région de l'Ouest, Jason Elon, enseignant de littérature africaine-américaine à l'Université de Missouri-Saint-Louis aux États-Unis, dit avoir retenu beaucoup de choses de la région d'origine de ses ancêtres.
I've learned that the Cameroonian people have challenges that we don't have back home in the States, and I appreciate those challenges. It's eye-opening to know how people live, and it gives me an insight on what we can do as African-Americans to help.
L'initiative La Maison des Afro-descendants est l'un des projets mis sur pied par les Camerounais et qui encourage le retour aux sources des Afro-descendants. André Conchou, promoteur de la Maison d'Afro-descendants.
En dehors de l'espace qui est mis à leur disposition pour le séjour, c'est justement avoir, donc, même avant le déplacement, des échanges avec eux, connaître quels sont les centres d'intérêt et organiser donc un peu leur séjour ici avec eux, établir des contacts. Ils ont été, par exemple, à l'Ouest, le contact avec le roi Bapa a été établi pour qu'ils visitent le musée, pour qu'ils le rencontrent aussi.
Bapa est l'un des villages de la commune de Bangou, dans la région de l'Ouest. Cette commune a été l'épicentre d'une forte activité de la traite transatlantique. Une jeune Camerounaise a travaillé à la création d'un jardin mémoriel dans cette commune. Paul Christelle Dassy, conservatrice du patrimoine du projet La Route des Chefferies.
Les ressortissants qui se sont déportés aux États-Unis et qui ont retrouvé leurs traces en tant que Camerounais, en tant que Bamilekais, reviennent ici à Bangou, par exemple, il y a 2 semaines. Il y a une famille de ressortissants américains qui sont revenus ici à Bangou et qui ont fait des rites de purification au niveau de la plaque du marché qui est là.
Après la mise en fonction d'un jardin mémoriel dédié à l'esclavage, le maire de la commune de Bangou salue une initiative à la fois historique et touristique.
Les populations sont souvent venues ici pour des rites et les rituels. On a essayé de réveiller ce mémorial. Le site est aménagé, mais également la génération future devait connaître qu'est-ce qui s'est passé.
Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, les petits cours d'eau, les rivières et les ruisseaux sont en train de disparaître. Le phénomène est dû au déboisement des forêts galeries, la mise en culture des berges des cours d'eau, la transhumance et l'aridité du climat. Un projet pilote de reboisement des berges de ces cours d'eau est initié par les autorités togolaises en vue de leur régénération. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Wusu.
Dans de nombreuses localités du Togo, les rivières, les ruisseaux et autres retenues d'eau disparaissent dans l'indifférence totale. Ils sont mentionnés sur la carte de l'hydrographie du pays, mais sur le terrain, ce sont des champs ou des habitations qui prennent leur place. C'est le constat fait par Yao Komi du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières.
Je vais prendre comme exemple la rivière Elia qui traverse le village de Sokome pour déboucher dans le lac. Quand vous allez au niveau de cette rivière, vous allez voir que le cours d'eau n'existe plus pratiquement. C'est des champs de canne à sucre. Bref, le cours d'eau n'existe que sur la carte. Dans d'autres localités, vous allez voir le même phénomène.
À la recherche d'une solution à ce problème, il a été initié un projet de reboisement des berges des cours d'eau dans une dizaine de localités dans la région maritime du pays. Dans les villages de Tonkoudji et de Fidokui, l'expérience mise en œuvre par l'ONG Action des Jeunes pour le Développement Intégral depuis 2020 fait tache d'huile. Sylvain Akati, le coordonnateur de AGEDI.
Nous avons mis en terre des Kaya, des Milina et la Kola Gigantea. Aujourd'hui, il y a l'eau dans la rivière et les espèces aquatiques sont revenues. Les oiseaux migrateurs qui n'étaient pas là sont revenus. Vous avez vu les tortues, les reptiles qui commencent par s'installer. Donc, nous sommes très fiers tout simplement.
45 000 plants ont été mis en terre le long des berges de la rivière Zio qui traverse ces villages. Et si à Azougo a participé au reboisement et apprécie les bienfaits de ce projet.
Waka Ajedi. Le travail réalisé par l'ONG Ajedi et Waka est extraordinaire. Nous avons participé au reboisement des berges de la rivière et depuis, elle ne tarit plus. Nous avons de l'eau en permanence. Cela nous aide à faire nos travaux de maraîchage et de subvenir aux besoins de nos familles.
La conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité est une composante du grand projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka, qui a l'ambition d'apporter une solution durable à l'ensemble de ses problèmes environnementaux. Adou Rahim, le coordonnateur national du projet Waka.
Vous avez la problématique sur laquelle le projet s'est fondé, sur les problèmes d'érosion côtière, d'inondation, ainsi de suite, avec toute la désolation que cela apportait aux populations. Aujourd'hui, on se dit que le gouvernement a vu vrai parce que les actions que nous avons déjà entreprises nous permettent de dire qu'il a fallu le projet Waka pour que vous puissiez venir à bout de ces questions aujourd'hui.
Initialement, le projet devrait s'achever fin 2023. Mais compte tenu des impacts positifs sur la population bénéficiaire, les autorités ont décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Kossi Woussou, Lomé, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, on va vers un dénouement de l'affaire qu'il convient d'appeler charbon fin. L'opinion a été alertée en 2018 sur la saisie d'une cargaison de charbon fin qui contiendrait de l'or. Des organisations de la société civile ont crié au scandale et l'affaire hyper médiatisée retient toute l'attention du public. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé avoir conclu une transaction avec la société minière en question, Yamgold et Sakan. Des analystes et autres observateurs appellent à plus de transparence sur cet accord. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Tout est parti le 30 décembre 2018. Le procureur général, près la cour d'appel de Ouagadougou, donne l'ordre de saisir 32 conteneurs contenant du charbon fin à Bobo Dioulasso et Ouagadougou. C'est la société minière Yamgold et Sakan S.A. qui était auteur de l'expédition. 495 tonnes de charbon fin contenant 304,273 kg d'or et 135,891 kg d'argent sont ainsi saisies. Valeur estimé plus de 7 milliards de francs CFA. Plus d'une dizaine de personnes sont accusées, entre autres des faits de fraude en matière de commercialisation d'or et d'autres substances précieuses, d'exportation illégale de déchets dangereux, de blanchiment de capitaux, de faux en écriture privée de commerce, d'usage de faux en écriture privée de commerce. Après 5 ans de procédure judiciaire, le gouvernement annonce une entente avec la société minière, un accord transactionnel. L'État pense sortir gagnant de l'affaire. Yacouba Gouba, ministre des Mines à la télévision nationale.
En ce qui concerne l'État, de pouvoir avoir l'abandon totalement de la cargaison, objet du différend, mais également il y a le paiement d'une amende au profit de l'État d'un montant de 9 milliards de nos francs. Les intérêts de l'État sont préservés.
Ce règlement transactionnel clôt ainsi le dossier dit du charbon fin entre l'État burkinabé et la société Yamgold et Sakan S.A. Yacouba Ladji Bama, ce journaliste qui a été l'un des premiers à alerter l'opinion dans cette affaire, n'est pas convaincu.
À notre grande surprise, on apprend que l'État a décidé, après plusieurs tentatives avortées, d'aller à une transaction avec Sakan dans cette affaire. Ce qui est assez curieux, en tout cas pour ce qui le concerne, bien suspect, on avait dit, parce que on ne peut pas comprendre qu'on ait investi tant d'argent et tant d'énergie dans cette procédure judiciaire qui tire sa fin et que comme ça, un matin, on se lève et puis on décide d'aller faire une transaction qui va empêcher la manifestation de la vérité. C'est une entente entre des gens dans le noir, sans base réelle.
Adama Bayala, président du réseau national des consommateurs du FASO, déplore aussi cette transaction.
Nous nous acheminons allègrement vers un rendez-vous manqué. Ça aurait dû être un procès pédagogique pour l'État burkinabé, pour l'ensemble des sociétés minières implantées au Burkina Faso, pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de production et de commercialisation de l'or et des métaux précieux.
Le ministre des Mines a rassuré qu'il y aura une transparence dans le traitement du charbon fin, qui lui sera rétrocédé. Le gouvernement affirme aussi tire des enseignements dans cette affaire et s'engage dans les prochains mois à engager des réformes pour davantage de transparence dans le secteur minier. Le procès qui était en cours a été renvoyé au 18 janvier prochain pour trouver une solution globale qui concernerait toutes les parties. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.